que nous le ressentons, que nous ne le ressentons pas, la présence de Dieu est là. Amen. Alléluia, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc, je vais parler de tempête. Alors, pourquoi parler de tempête? Parce que nous rentrons dans des situations, et Jessica le disait, quand on regarde les informations aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Confusion partout, enfin, voilà, vous connaissez tous ces situations. Alors pourquoi parler de tempête? C'est pour justement nous aider à traverser des situations difficiles. Et ce matin, je voudrais justement vous partager, et que je crois que j'en avais déjà une fois parlé, donc de ces tempêtes. Alors Dieu peut susciter une tempête, tiens donc. Eh oui. C'est pas seulement le diable qui agite les choses, mais Dieu peut également susciter une tempête. Dieu peut utiliser également une tempête. Alors Dieu peut susciter une tempête pour nous ramener à lui. Dieu peut susciter une tempête pour nous chercher à nouveau. Et Dieu peut susciter une tempête, enfin Dieu peut utiliser une tempête pour éprouver notre foi. Et pour nous conduire vers d'autres horizons. Nous ouvrir peut-être des portes auxquelles nous n'avons vraiment pas pensé. Alors je voudrais justement parler de ces tempêtes que nous déclenchons nous-mêmes. De ces tempêtes que nous subissons sans raison apparente. Tout d'un coup, voilà, on est pris dans une tempête, dans une situation difficile, délicate, on ne sait pas comment ça se fait. Et nous pouvons également être conduits dans une tempête, sans que nous le voulions. Donc on peut être, malgré nous, conduits dans une tempête. Et nous allons voir justement ces trois tempêtes, ces trois embarcations secouées par la tempête. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset qui est difficile à assimiler dans le sens où, Seigneur, comment ces choses peuvent-ils concourir à mon bien? Seigneur, tu connais ce chamboulement que je suis en train de vivre? Comment ces choses peuvent contribuer à mon bien? Quand je traverse une tempête. Alors comment comprendre ce verset avec la situation dans laquelle je suis en train de vivre? Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible, quand elle parle de la mer, est souvent associée au monde, au peuple, aux nations, aux foules, au tumulte de ce monde. Alors nous allons voir la première tempête. La première tempête, on la trouve dans Jonas. Alors une tempête déclenchée par la désobéissance. Alors Dieu peut susciter une tempête dans notre vie pour nous ramener dans ses voies, nous ramener sur le bon chemin. Nous ramener dans ces projets qu'il avait prévus pour nous. Parce que il y a nos projets personnels, mais il y a aussi les projets de Dieu. Il y a aussi le plan de Dieu. Dieu a prévu des projets pour nous. Alors certes, nous pouvons déposer nos fardeaux, nos soucis, les situations, nos projets, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi le souci que Dieu a pour ce monde. Alors, vous connaissez tous un petit peu cette histoire de Jonas qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Et on peut lire dans Jonas 1, je crois que j'ai marqué, oui, voilà. Donc, Jonas, chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler, donc c'est l'Éternel, il fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Alors voilà une méthode que Dieu utilise. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous ramener à lui. Alors là, nous avons ce prophète qui était dans la désobéissance, car il devait annoncer la destruction de Ninive. Et comme les Ninivites étaient vraiment des ennemis d'Israël, voilà que le prophète, justement, a désobéi. Alors là, nous avons la situation d'un prophète. Alors on peut dire, on peut pas, on, alors on peut, on ne peut pas s'identifier à un prophète, certes, mais on a quand même dans nos vies des situations où on est dans la désobéissance. Et on s'étonne quelquefois pourquoi les choses vont un petit peu de travers, ou sont quelquefois un petit peu bancales, ou il y a des choses qui fonctionnent pas trop. Parce que il y a une source de désobéissance quelque part. Nous passons là dans des situations qui sont un petit peu, qui sont dans l'extrême. C'est juste pour nous faire comprendre qu'il y a, Dieu nous cherche juste dans les extrémités des situations. Même dans les profondeurs dans lesquelles nous pouvons tomber, Dieu nous cherche. Mais il y a aussi ce curseur qui, la désobéissance peut passer par des choses très simples, par une parole désagréable, un comportement, des actes. Ces choses-là ne sont pas dans l'obéissance de la volonté, de la parole de Dieu. Et alors on s'étonne pourquoi, voilà, ça devient bancal. Et là, Dieu fit souffler un vent impétueux dans cette circonstance, une grande tempête, à un tel point qu'ils jetèrent justement les objets qui étaient sur le navire menaçait de faire naufrage, nous dit la parole de Dieu. Dans Jonas chapitre 1, verset 5, il nous a dit, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Et Jonas, que fait donc Jonas? Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit, et la Bible nous dit profondément. Tiens donc, comment peut-on s'endormir profondément quand un navire chahute de droite à gauche, quand on commence à jeter les agrès du navire pour l'alléger? Jonas descend au fond de ce navire. Ça me fait penser un petit peu, c'est ce sommeil profond. Et puis j'en discutais brièvement avec Serge avant. Dépression. Au moins, c'est une forme de dépression. Comment peut-on s'endormir profondément dans une tempête et au vu de la situation de Jonas, ben lui, il fait qu'il a désobéi à Dieu. Ben, il était complètement dans la décontenance. Il était vraiment dans une forme de dépression. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense qu'il est descendu au fond de la cale pour mourir. Point barre. Voilà. C'était son objectif. Bah. Et le pilote s'approcha de lui. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Alors on voit très bien là, frères et sœurs, que quand nous sommes dans une situation de désobéissance, ça touche même notre entourage. Ça touche notre situation familiale en premier lieu. Quand je disais qu'il y a des choses qui commencent à être bancales, qu'on désobéit, eh ben, les premiers concernés, c'est ceux qui sont autour de nous. Notre épouse, notre époux, nos enfants. Et là, ce pilote lui dira, prie ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous. Alors, Dieu suscita une tempête et Dieu orienta même le sort qui tomba sur Jonas. Certainement qu'ils ont tiré au sort et pour savoir d'où vient ce problème, d'où vient cette situation. Et là même, Dieu a permis justement que le sort tomba sur Jonas. Et là, on voit à un moment donné que du fait que Jonas a été découvert, donc du fait qu'ils ont compris que Jonas était le problème, Jonas leur a proposé de le jeter par-dessus bord. Alors là, c'est quand même quelque chose de dramatique pour ces matelots et qui craignaient pour leur vie dans cette tempête de jeter encore un homme par-dessus bord. Jonas a dit, si vous voulez avoir ce calme et sortir de cette tempête, de cet événement, jetez-moi par-dessus bord. Alors ils ont quand même résisté, nous dit la parole de Dieu, ils ont quand même un petit peu, ils étaient hésitants, ils ont continué un petit peu à naviguer, mais sentant que cette tempête devenait de plus en plus intensive, ils ont quand même pris cette décision sur l'ordre de Jonas de jeter par-dessus bord. Et puis là, donc, on connaît la situation, hein. Donc, Dieu a suscité un poisson, et qu'on peut voir, j'ai noté dans Jonas chapitre 2, si vous voulez lire avec moi, la prière que Jonas a fait, donc quand il a jeté par-dessus bord et que le poisson est venu pour l'avaler, quand il était dans le ventre de ce poisson, Jonas. Alors, dans la cale du navire, Jonas était dans cette dépression profonde, prêt à mourir, se laissait submerger. Et, en sens inverse, quand il était dans le ventre du poisson, Jonas se mit à crier. Je vais vous lire, donc c'est du chapitre 2 de Jonas, du verset 1 à 8. C'est quelque chose qui nous fait du bien quand on peut relire une prière d'un personnage biblique qui a prié dans des situations difficiles. La parole de Dieu, elle est là pour justement nous stimuler, nous motiver et nous nourrir. Nous pouvons nous nourrir justement de ces prières. Hein. Si Jonas s'est passé une situation aussi dramatique, aussi grave, comment puis-je moi réagir? Alors il a dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours, des mots, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Quelquefois, nous subissons une tempête, frères et sœurs, on est complètement submergés. Et puis, quand une vague est passée, il y a une seconde qui vient, et puis il y a une troisième qui vient. Et au verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il avait cette foi, cette confiance en Dieu. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. C'est ce qu'on ressent quelquefois, frères et sœurs, hein, quand nous sommes dans une situation difficile, quand nous traversons peut-être le deuil, quand nous passons une souffrance, quand un enfant, justement, passe une difficulté. Nous sommes comme dans une forme d'abîme, nous sommes comme enveloppés par l'abîme. Les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Oui, l'Éternel s'est souvenu de la prière de Jonas. La prière de Jonas atteint le trône de Dieu, le plus profond dans laquelle il se, le plus profond de la tempête dans laquelle il se trouvait. Alors, Dieu a utilisé cette tempête pour ramener Jonas dans la bonne direction, pour le ramener dans les voies de Dieu et dans les projets prévus pour Jonas. Alors, dans 2 Timothée 2, chapitre 13, il nous a dit que même si nous demeurons infidèles, Dieu demeure fidèle. Quand nous avons accepté Christ au travers de l'œuvre de la croix, et puis là, c'est une préfiguration également, en lisant la prière de Jonas, une préfiguration de l'œuvre de la croix également. Et donc, quand Dieu fait alliance avec nous, lui tient promesse, son alliance. Même quand nous demeurons infidèles, même quand nous sommes dans la désobéissance, au plus profond, comme Jonas était dans le ventre de ce poisson, et non seulement dans le ventre de ce poisson, mais encore plus de surcroît au fond des mers, aucune issue, aucun secours. Ben, la prière de Jonas a été entendue, ça fait du bien. Frères et sœurs, ça fait du bien. quand nous subissons une situation difficile, quand nous rentrons dans une forme de dépression, où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, où on n'a plus cette once de lumière. Je me souviens quand mon oncle Marcel, avec 40 ans de marche chrétienne, est tombé dans une dépression terrible. J'étais là, abasourdi. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'un frère ancien, avec une telle motivation spirituelle, un gagneur d'âme, est là couché dans un lit d'hôpital, il était hospitalisé. Bah, je ne sais plus combien de temps ça a duré. Bon, j'ai moi ma cousine d'ailleurs, je crois que ça a duré plus d'un mois. Quand je suis allé visiter mon frère Marcel, qui lui, justement, était un mentor pour moi. Quand on voit un père spirituel, un mentor, couché dans un lit dépressif, vous voyez ce que ça peut représenter? Et plus envie de lire la parole de Dieu, plus envie de prier. Et puis c'est un homme de prière, c'est un homme d'intercession, c'est un intercesseur. C'est grâce à lui que le souffle de Dieu soufflait sur notre famille. C'est au travers de lui que je suis converti, c'est-à-dire à l'intercession de ses prières, toute la famille. On se demande, mais Seigneur, pourquoi? Et alors, il y a quand même quelque chose qu'il a dit. Il avait plus envie de prier. On pouvait même plus partager quelque chose. C'était spirituel. Et même autre. Mais il m'a quand même dit quelque chose et il m'a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est-à-dire, c'est comme dans Job, quand Job a passé justement cette épreuve. Et mon oncle Marcel, il avait ce petit point, il m'a dit, j'ai juste un petit point de lumière, mais infime, un tout petit point de lumière. Et c'est sur ça, c'est sur la seule chose sur laquelle il pouvait s'accrocher encore, juste ce point de lumière. Et il s'en est sorti. Et il s'en est sorti, pourquoi? Comme pour Jonas. Du fond des entrailles de ce poisson, la prière de Jonas a été entendue. Et ça fait du bien. Seigneur, je peux être au plus profond d'une tempête. Je sais quand j'ouvre ma bouche, mes paroles viennent à toi. Alléluia. Alors, voilà une des premières situations, une des premières tempêtes. Alors oui. Quelquefois, il ne va pas autrement, frères et sœurs. C'est une tempête qui nous ramène dans les bonnes dites positions de cœur. C'est au plus profond du désespoir que jaillit la véritable repentance, n'est-ce pas? C'est comme nous sommes quelquefois au bout du rouleau. Et Dieu laisse faire quelquefois les choses. Ou comme là, dans cette situation, c'est Dieu qui suscite la tempête pour qu'il y ait une réaction. Pour qu'il y ait quelque chose qui se produise. Pour qu'il y ait une sincérité de cœur qui soit à nouveau là. Pour qu'il y ait à nouveau la repentance qui jaillit du fond de nos entrailles. Et pour dire, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu m'accordes. Pour ton sang précieux qui purifie ma désobéissance. Et par laquelle, Seigneur, cette repentance, je peux me dresser nouveau devant ta face. Glorieux. Et souvent, nous ne connaissons pas toujours l'aboutissement des choses. Mais quand on voit la fin de cette histoire, on comprend beaucoup de choses. Et alors, on peut rajouter, l'œuvre de Dieu est plus grande que le saut d'humeur de Jonas. L'œuvre de Dieu est beaucoup plus grande que nos sauts d'humeur que nous pouvons avoir. Parce que l'équipage de ce bateau fut sauvé. Ainsi que 120 000 hommes de Ninive furent sauvés. Pourquoi? Parce que Jonas a retrouvé justement la voie de Dieu, les projets de Dieu, les plans de Dieu, et nous rentrer dans l'obéissance de Dieu. J'ai encore un autre exemple qui vient, mais je ne vais pas être trop long. Alors, la réponse de Dieu est clair. Laisse-moi conduire ta vie. Laisse-moi conduire ta vie. Laisse-moi être ton capitaine. Ne t'obstine pas dans ta propre volonté, mais sors des voies de la désobéissance si tu es rentré dans la désobéissance. Quelqu'un va peut-être se retrouver dans ces trois tempêtes. C'est la première tempête. Alors, je sais pas qui est concerné par cette situation. En tout cas, voilà. Rentre à nouveau dans les voies de l'obéissance, de la volonté de Dieu. Et sois à nouveau dans les projets de Dieu qu'il a formés pour toi. Alléluia. Seconde tempête. Alors là, c'est une tempête sans raison apparente. Tiens donc. Tout est tranquille. Jésus est avec nous dans la barque. Les disciples, justement, sur le commandement de Jésus, passaient ce lac de Tibériade. Alors ça se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27. Et là, sans raison apparente, il y eut une si forte tempête que la barque était couverte par les flots. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus dormait dans cette barque. Alors attention, c'est pas le même sommeil que Jonas. Mais Jésus dormait dans cette barque. Et Jésus dormait dans cette barque, pourquoi? Parce que il était entre les mains de son Père. Lui, il était tranquille. Son heure n'était pas encore venue. Donc pour lui, il n'y a vraiment aucun souci. Lui, il connaissait les projets de Dieu, le projet de son Père. Et donc, il était là pour accomplir la volonté de Dieu. Et chose extraordinaire, il était là physiquement avec eux dans la barque. Mais il dormait. Et là, que s'est-il passé? Les disciples ayant Jésus dans la barque au milieu de cette tempête, l'eau qui commence à rentrer dans l'embarcation, et Jésus qui dort. Et je dirais même que c'est peut-être bien qu'il dormait. Parce que ça suscitait et ça éprouvait la foi des disciples. Si on peut s'imaginer que Jésus n'était pas endormi, que Jésus s'est accroché ou se tenait au mât du bateau pour pas passer par-dessus bord, certainement que les disciples ont dû tenir vraiment l'embarcation est bien serrée pour pas tomber par-dessus bord. Mais il serait dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Ben, Jésus dans l'embarcation, dans sa pleine tempête, on le voit debout là. Ben, il n'y a rien qui va se produire en nous. Il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce que nous plaçons complètement notre confiance en Dieu. Mais lui, il va gérer. Mais du fait que Jésus dormait, oulala, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la panique à bord. Jésus dort. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'est déjà noyé? Est-ce qu'il a déjà reçu une louche d'eau? Ils vont le réveiller. Et ils l'ont réveillé. Il nous a dit que Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors, Jésus va leur dire quelque chose d'extraordinaire et de très dur également. Donc, au verset 26 de Matthieu 8, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ouh là 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 là! Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors, la réponse de Dieu dans cette tempête est de dire, où est ta foi? Tu passes dans une situation peut-être aujourd'hui, sans problème apparent, sans souci, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déchaîne dans ta vie, tu sais pas comment c'est arrivé. Et là, tu commences à être dans la crainte, dans la panique, comme les disciples, parce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est avec toi. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu est là. Mais sauf, il n'y a rien qui se manifeste. Et là, on commence à avoir la crainte et la peur et la trouille. Que va-t-il m'arriver? Et là, Jésus dira, où est donc ta foi? Aie foi en moi. Ça, c'est pas facile, frères et sœurs. C'est quand nous sommes exercés à traverser des situations dans notre vie, que notre foi se manifeste, et quand nous sommes exercés à manifester la foi, ça nous fait grandir. Et ça nous donne justement d'être plus forts dans les prochaines circonstances ou situations que nous allons traverser. Et toute notre vie, frères et sœurs, nous aurons à traverser des monts, des vallées. Nous sommes encouragés par la parole de Dieu. Alors, ne crois-tu pas que je suis le Dieu Tout-Puissant qui peut te sortir de ces flots qui te submergent? Crois avec foi que je suis avec toi dans cette tempête que tu traverses. Et là, la prière aussi de 2 Samuel 22, 27, où il est dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. » De son palais, exactement comme pour Jonas. La prière de Jonas est arrivée dans le temple de Dieu. Et là, Samuel, pareil, ma prière est arrivée, justement, également, dans le palais de Dieu. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ah, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Extraordinaire. Allez, troisième tempête. C'est la tempête qu'on peut subir malgré nous. Eh oui. Malgré nous. C'est-à-dire, nous pouvons être enrôlés dans une situation parce que nous avons peut-être dit oui à quelque chose où il fallait peut-être dire non. Où nous avons soutenu une situation, où nous avons soutenu des paroles qui, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elles étaient fausses. Et on est peut-être parti dans de la médisance sur un frère, sur une sœur, sans avoir de fondement précis, d'informations précises à son sujet. Et voilà que des choses se déchaînent, que nous sommes enrôlés dans une tempête. Et alors, nous aurons peut-être un contre-courant en disant, mais oui, mais toi, t'étais également avec. Non, on ne sait plus comment faire. Et on est enrôlés dans une tempête. Et alors là, c'est Paul qui a subi malgré lui une tempête. Alors j'ai noté, on le voit surtout petit. Donc 276 passagers et 14 jours de tempête. Alors à un moment donné, si on trouve cette histoire dans Acte 27 au chapitre 20, je vais vous lire justement le premier verset affiché. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc c'était Paul qui était amené à rendre compte à César à Rome. Il a pris une embarcation, donc avec des soldats qui l'entouraient, pour l'amener justement au tribunal de Rome. Et ils ont commencé à naviguer le long de la côte. Et la navigation se faisait difficilement. Et là, nous avons un apôtre Paul, qui lui n'est pas marin du tout, mais qui a vraiment l'esprit de Dieu. Par bon sens. Alors là, le bon sens. C'est vrai parce que quand on est chrétien, on n'est pas dans la lune. Quand on est chrétien, on a une intelligence renouvelée. On a une intuition qui est démultipliée. On a un bon sens qui vient d'emblée devant nous. On a un raisonnement logique. Je dis ça parce que j'ai fait les vendanges là et souvent dans l'équipe il y a d'autres personnes que je côtoie. Il y avait un jeune qui a fait déjà pas mal de pays, disons qu'il est en train de faire le tour du monde, il a une quarantaine d'années, il vit un peu de tout et de rien, enfin, voilà. Et à un moment donné, on a discuté un petit peu de Dieu. Alors dans les vignes, c'est parti très vite, voilà, et puis donc comme on est tous assez regroupés, et je disais à un moment donné que, déjà, je n'ai pas une religion, J'ai une relation. Donc il faut pas tout confondre. Et alors, comme lui parcourait le monde, bah oui, il a entendu un petit peu à droite, à gauche de ce qui se passe, comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme religion, et ainsi de suite. Et alors, comme la parole de Dieu dit, on picore une fois un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et puis on commence à se constituer une pensée de Dieu de par notre propre raisonnement. Bah, je dis, moi, croire en Dieu, c'est quelque chose de très simple, de très logique et de très basique. Voilà. C'est tout simple. Mais nous, on fait tellement compliqué qu'on se connaît dans la confusion. Et l'apôtre Paul, dans son bon sens, voyant que la navigation devient difficile, il allait voir le pilote et les marins en leur disant, je crois bon qu'il est peut-être préférable de rester dans ce port où ils ont accosté suite à la difficulté de la navigation. Il serait peut-être bon de rester dans ce port parce que si on poursuit la navigation, on risque de perdre justement l'embarcation, dira Paul. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, cet homme-là? Hein? Donc, il nous a dit que, au chapitre donc 27 d'Actes, au verset 11, le centenier écouta le pilote écouta le patron, alors plutôt que les paroles de Paul. Eh oui, chrétien insignifiant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et ça vous arrive souvent, ça, non? C'est-à-dire du fait qu'on se dit chrétien. Ah ben là, on est criblé, hein? On est, comment je veux dire? On est dans le champ de vision. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est ce que je me disais aussi dans les vignes. Mais alors toi, si tu es chrétien, tu dois avoir une vie carrée. Non, je suis pas une vie carrée. Moi, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, j'ai fait des erreurs, j'ai peut-être quelquefois des mauvais comportements, j'ai tout. Mais, effectivement, tu as quand même raison. Je vis, j'essaie de vivre quand même pieusement. Voilà. Bah. On est raillé parce qu'on est chrétien. Ou alors, nos paroles, justement, de bon sens, quelquefois, ne prennent pas. Voilà. Comme l'apôtre Paul, mais t'es pas marin, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Et il nous a dit que le troisième jour, donc ils ont quand même décidé de partir, et le troisième jour, ils y lança de leurs propres mains les agrès du navire, comme la première tempête. Donc pour Jonas, pareil, ils ont allégé l'embarcation. Donc le blé et les choses vitales ont été jetées par-dessus bord, telle la puissance et la rage de la tempête était là. Alors, je me suis noté que dans les situations familiales, peut-être monoparentales aussi, on peut être père ou mère de famille, et on peut être là à un moment donné à ne plus pouvoir, on n'en peut plus, parce qu'on est peut-être submergé par tant de choses, par le problème de la nourriture, par le problème financier, par peut-être la perte encore d'un emploi. Et là, le seul confort qui peut rester encore nous est enlevé. On peut perdre notre logement. C'est-à-dire les flots peuvent balayer presque toute une vie. C'est-à-dire tout ce qu'on a essayé de construire, de monter, d'échafauder dans une vie peut être balayé rapidement par une tempête. C'est un petit peu ce qui se passe sur ce navire-là. C'est-à-dire leur seule chose confortable qu'ils avaient, c'était leur bateau, leur raffio, et qui leur garantissait justement la vie sauve également. Alors, on peut être dans une situation telle que on nous prend même le logement que nous avons, parce qu'on n'arrive plus à le payer. Et on se dit, mais Seigneur, je suis chrétien, avec tout ce qui m'arrive là, Seigneur, que se passe-t-il? Alors oui, on s'est peut-être laissé enrouler quelque chose qui a déployé une tempête. Les situations, vous prenez maintenant une situation toute simple, vous prenez un héritage. On sait tous, pour la plupart des cas, quand il s'agit d'héritage, c'est conflictuel. Plus qu'il y a d'héritiers, moins que ça va. Voilà. Et alors là, on peut perdre beaucoup. J'ai un voisin, il a perdu sa femme par un accident de voiture. Je crois qu'à l'époque, ils avaient entre 30 et 40 ans. Et ils avaient, je crois, je sais plus si c'est 3 ou 4 enfants. Donc tout ce qu'ils ont construit, enfin tout ce qu'ils ont construit en tant que couple, leur demeure. Son épouse meurt d'un accident subitement, d'un accident de voiture. Le voilà là, seul, avec ses 3 enfants. Mais là, il y a un enfant qui voulait la part d'héritage de la mère. 1 sur 3 ou sur 4. Mais elle a dit, il était obligé de vendre la maison pour pouvoir payer la part de cet enfant. Et oui, frères et sœurs, il y a une situation comme ça. Et ça tombe, non, ça tombe pas seulement sur les inconvertis, mais ça tombe sur les chrétiens comme nous. Et oui, pas toujours facile, hein, pas toujours évident. Pouvoir même sortir peut-être d'un logement parce que on peut plus subvenir au loyer. Et alors là, pour en revenir sur la tempête avec l'apôtre Paul, au verset 42, il nous a dit, les soldats furent d'avis de les tuer encore plus dans cette tempête, de peur qu'un d'eux s'échappât à la nage. Alors on peut être dans une telle situation que même on est menacé également par des paroles qui nous anéantissent encore plus de surcroît, nous anéantissent encore moralement. Et alors là, on trouve dans le verset 22 l'exhortation de Paul. À un moment donné, Paul dira en plein milieu de cette tempête, maintenant je vous exhorte, il nous a dit, à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Ouh là là, ça c'est un don spirituel, hein? Ouh, celui est costaud, hein? Est-ce qu'on peut s'imaginer donner ce don spirituel au milieu d'un pont, d'un bateau qui est en train de se disloquer par la puissance et la force de la tempête et entendre ces paroles? Aucun de vous ne périra. Et ne périra pourquoi? Ne périra pas. Pourquoi? Parce que on est dans l'obéissance. Parce qu'ils sont dans l'obéissance. Parce que certains voulaient quitter le bateau quand même. Et Paul, alors là, tout d'un coup, tout le monde était attentif à Paul. C'est Paul qui était le chef de l'embarcation à un moment donné. C'était plus le pilote et le patron du bateau. C'était lui. Parce que la navigation était du péril pur et simple dans le rationnel humain. Il allait couler, on allait mourir. Voilà, ça c'était la conclusion humaine. Et l'apôtre Paul dit, prenez courage, mais c'était impressionnant. Et alors, certains voulaient quitter le bateau. Et Paul dira, s'il y a quelqu'un qui quitte le bateau, ils périront. Il faut qu'ils restent sur le bateau. L'obéissance qui permet justement le salut. L'obéissance qui permet le salut. Alors Paul exhorta tout le monde en pleine tempête de prendre la nourriture. Et alors là, ça nous amène à la croix, à la Sainte Cène. C'est à ça que j'ai pensé quand Paul le dira à un moment donné, il prit du pain, rendit grâce devant tout. Quoi que j'avais noté, oui. J'ai même souligné devant tout. Frères et sœurs, on a quelquefois des difficultés à prier devant quelqu'un d'autre, non chrétien peut-être. Ou alors on a peut-être la difficulté dans notre propre maison à rendre grâce pour ce que nous mangeons à table, parce qu'il y a quelqu'un d'inconnu autour de notre table. Chez moi peut venir qui veut. Ministre, président de la République, peu importe. Du moment qu'il rentre chez moi, qu'il s'assoit à table, je rends grâce. Par contre, si moi, je suis invité ailleurs, Je passe dans une famille inconvertie, je m'impose pas. Je m'impose pas. Par contre, plusieurs reprises, sachant que je suis chrétien, on m'a dit, mais tu peux rendre grâce si tu veux. Et je dis souvent, oui, il n'y a pas de souci. Mais je dis, mais c'est pas pour moi que je rends grâce, hein. Moi, ça me dérange pas, moi, parce que pour moi, c'est réglé, c'est clair. Moi, je sais, mais c'est pour vous. Si je rends grâce, c'est pour vous. Eh oui. Donc, Paul rendit grâce. Il rompit le pain devant tous. Il rompit le pain. C'est ce que nous allons prendre après. Ça me fait penser aux disciples d'Emmaüs. Quand Jésus marchait avec les deux disciples, il nous a dit, quand ils étaient à table, Jésus prit le pain et le rompit. Et au moment où Jésus a pris le pain et le rompit, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux des disciples se sont ouverts. Et Jésus a disparu devant leurs yeux. Et il y a le feu qui est rentré. Y a le feu du renouveau qui est rentré justement dans les disciples. Eux qui voulaient justement passer la nuit à Emmaüs, ils sont retournés à Jérusalem. Daï, daï. Avec le feu de Dieu. Et oui, et là également, Paul dira, prenez ces aliments qui vont nous fortifier. La parole de Dieu est la nourriture qui va nous donner la force morale pour affronter la difficulté et saisir la victoire. Alors, quand on relit ces textes, on peut s'identifier dans leur situation. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous porte, c'est ça la parole de Dieu. Seigneur, ce qui est arrivé à ces hommes, à ces femmes, dans les textes bibliques, ces situations qu'ils ont traversées, je peux m'approprier justement leur solution, leur réaction. Seigneur, aide-moi à être comme eux, des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Alors, il nous a dit qu'ils rencontrèrent une langue de terre où il fit échouer le navire et la proue était engagée, donc l'avant du bateau resta immobile, tandis que la poupe se brisait. Vous voyez un petit peu la puissance de cette tempête. Donc, se brisait. Ils se sont tous jetés à l'eau. Tous parvinrent sains et saufs. Alors, si tu passes une situation de tempête, où tu t'es laissé embarquer ou enrôler dans une situation qui est inextricable, Dieu te sortira de cette tempête. Il calmera la force et la violence des vents qui s'abattent sur toi. Et tu sortiras de cette situation sain et sauf. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Parce que ça, c'est extraordinaire. Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'il nous a dit à un moment donné que quand l'ange de Dieu a parlé à Paul, il a dit, ne crains point, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et qui sont tous ceux qui naviguent avec toi? Toutes sortes de personnes étaient sur ce navire. Il y avait des prisonniers pour être transférés à Rome. Il y avait pour être jugés. Il y avait des commerçants, des marins, des fonctionnaires, des soldats. Tous étaient sur le même bateau. Ils n'étaient pas chrétiens. Je crois que le seul chrétien, c'était Paul. Alors, Dieu nous donne ceux qui naviguent avec nous. Qui sont ces gens qui font la traversée à notre côté? Eh ben, c'est notre famille. Un mari hostile, peut-être, qui navigue avec nous. Une épouse incrédule. Des adolescents rebelles qui naviguent avec nous. Des collègues indifférents qui naviguent avec nous. Des voisins moqueurs qui naviguent avec nous. Alors c'est vrai, tous ceux-là ne sont peut-être pas chrétiens, Oh, du moins pas encore. Car on prie pour eux. Amen. Alléluia. Alors Dieu t'accorde sa grâce pour tous ceux qui naviguent avec toi. À commencer par ta famille, tes proches, les inconvertis. Ils seront au bénéfice de ta foi. Comme il peut y avoir des conséquences à la désobéissance, il y a aussi des conséquences à la bénédiction autour de notre famille. Si nous désobéissons ou si nous sommes pris dans une tempête ou nous manquons de foi, si nous sommes dans la panique et dans la crainte devant nos enfants, devant des inconvertis, devant des collègues de travail, ils vont se dire, mais c'est quoi comme chrétien? Il y en a d'autres qui sont nés, qui ne sont pas chrétiens, qui traversent peut-être des situations beaucoup plus compliquées encore. Et qui les franchissent différemment. Alors oui, nous sommes aux bénédictions de ceux qui sont autour de nous. Les premiers touchés, soit par nos craintes ou nos peurs, et soit par la bénédiction également. Dieu bénit, et j'aime bien, je crois que c'est dans le Deutéronome, Dieu bénit, jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est pour nous. Alors, je termine. Si tu es dans la tempête, par la désobéissance, reprends le chemin de la repentance. Reviens dans les voies, dans les projets, dans la volonté de Dieu. C'est un appel que Dieu fait. Si tu te sens concerné par cette première tempête, si tu es concerné par la deuxième tempête, une situation sans raison apparente, il y a peut-être toujours un comment du pourquoi, mais là, c'est sans raison apparente. Ne te laisse pas envahir par la peur et l'incrédulité, mais Dieu est en train d'éprouver ta foi. Amen. Seigneur, je ne comprends pas. De la foi en moi. Et si tu es comme Paul, malgré tout, malgré toi, enrôlé à cause des autres, pris dans une tempête, il est dit, ne porte pas des regards inquiets. Dieu est avec toi, il te conduira. Amen. Dans tous les cas, ce matin, cette attitude de foi qui va te permettre de te réjouir de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Se réjouir de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors, si nous sommes dans une tempête, dans une intensité de tempête, ou alors ça peut être une vague petite, moyenne ou très grande, peu importe, pense à ce que Dieu va faire, Seigneur. Comme mon oncle Marcel qui disait, comment vas-tu me sortir de là? Comment vas-tu me sortir de là? Quelle porte vas-tu ouvrir, Seigneur? C'est des prières de foi et des actions de grâce. Amen. Donc voilà, j'en ai terminé. On va juste encore se lever pour prendre la prière avant la Sainte Cène. Parce que je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Alors, si vous êtes concerné par une de ces situations-là, vous avez la réponse de Dieu ce matin. Puis c'est vraiment saisir la parole entendue. Et que cela suscite vraiment de la foi et de la reconnaissance déjà. Chanter avant la victoire, ça c'est quelque chose. Chanter après la victoire, tout le monde peut. Chanter avant la victoire, c'est un chant de foi. C'est un chant de foi. Amen. Si vous vous sentez concerné par une situation, laissez l'Esprit de Dieu œuvrer, agir et confesser dans votre cœur. Si vous devez vous repentir, ou Seigneur, pardonne-moi, ou Seigneur, merci que tu vas me donner la force de continuer. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce et te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est agréable. Pour ta parole, qui quelquefois peut-être plus ferme. Mais Seigneur, c'est l'autorité de Dieu. Merci encore pour cette bonne parole, cette bonne nourriture qui nous fortifie. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, toi tu vois, toi tu connais. Tu es celui, Seigneur, qui veut secourir en ce moment. Tu es celui, Seigneur, qui veut réconforter également. Seigneur, tu as parlé dans notre cœur au travers de ta parole. Seigneur, merci encore, Seigneur, de ce que tu es le Dieu véritable, de ce que tu es le Dieu unique, de ce que tu es le Dieu souverain qui gère toutes choses. Seigneur, tu gères le calme, tu gères la tempête, tu gères la paix. Seigneur, tu gères les turbulences. Seigneur, tu gères les joies. Tu gères, Seigneur, tout ce qui peut, Seigneur, produire, Seigneur, des choses négatives en nous. Tu gères toutes choses, car nous t'apportons toutes choses. Nous sommes, Seigneur, tout en tout, en toi. Ô Père éternel, merci. Seigneur, pour la joie que tu me donnes, même dans les situations difficiles dans lesquelles je me trouve, dans laquelle je me trouve. Ô Seigneur Jésus, merci, car tu me donnes de fortes nouvelles. Je veux prendre, Seigneur, cette sainte scène ce matin. Seigneur, et m'identifier à ton sacrifice. Tu es mort pour moi. Seigneur, tu as souffert pour moi, afin que je puisse, Seigneur, être au bénéfice, Seigneur, d'un renouveau physique, moral, psychique. Alléluia. Merci pour le renouvellement de mon être entier. Merci Père éternel pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Renouvelés. Et nous allons prendre la Sainte Cène pour confirmer, pour appuyer ce que nous avons entendu. Paul prit le pain et le rompit. Jésus prit le pain, le rompit et rendit grâce. Les disciples d'Emmaüs étaient éblouis. L'apôtre Paul a permis qu'aucun, Dieu a permis au travers de l'apôtre Paul qu'aucun homme ne périsse sur ce navire. Alléluia. Amen.